Et 2h à Paris, 1h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une, le chef de l'ONU se dit profondément attristé et choqué après le décès d'un employé de l'ONU à Gaza. Antonio Guterres réclame une enquête complète. Depuis la reprise des frappes israéliennes dans la nuit de lundi à mardi, plus de 470 personnes ont été tuées à Gaza, d'après la défense civile palestinienne. Le Qatar endosse le rôle d'arbitre entre le Rwanda et la RDC. Rencontre surprise ce mardi à Doha entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Un coup diplomatique pour le Qatar, prêt à s'investir. Et puis les représentants du parquet antiterroriste le présentent comme l'un des djihadistes les plus dangereux de France. La réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté a été requise contre Medine Mouche. Au moins 470 morts depuis la reprise des bombardements israéliens. C'est ce qu'indique la défense civile palestinienne. L'armée israélienne annonce avoir lancé des opérations terrestres ciblées dans le centre et le sud de l'enclave. Pendant ce temps, le ministère de la Santé fait état d'une frappe contre un bâtiment qui abritait des employés de l'ONU. Au moins un mort et cinq blessés. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, se dit profondément attristé et choqué par cette mort. Il réclame une enquête complète, tandis que l'armée israélienne rejette toute implication. Les précisions de notre correspondante Amira Souilem à Ramallah, qui a réussi à joindre un témoin des violences à Gaza.
Iyad, travailleur humanitaire, faisait une distribution alimentaire à proximité de l'hôpital El-Aqsa de Deir el-Balah quand un mouvement de panique a envahi le quartier. C'est dans cet établissement hospitalier que l'équipe de l'ONU a été transférée. Aussitôt, il ressent le besoin de témoigner.
On a entendu le son de l'explosion quand elle a eu lieu. C'est la panique à Deir el-Balah. Les scènes que l'on voit sont vraiment dures à soutenir. Il y a un corps, un martyr de l'ONU et cinq blessés graves. Un d'eux est transféré à l'hôpital européen de Ran Younes dans le sud afin d'y être opéré en urgence. Il risque d'être amputé de la jambe.
Alors que les regards, dont ceux de l'ONU, semblent se tourner vers Israël, Iyad s'inquiète. Si des équipes étrangères censées être un peu plus épargnées que les Gazaouis sont ciblées, cela augure mal de la suite pour eux, selon lui.
C'est une catastrophe ici, toujours. La situation va empirer si les frappes israéliennes continuent. N'oublions pas que cela fait plus de 17 jours que l'aide humanitaire et la nourriture ne peuvent plus entrer dans Gaza.
L'armée israélienne a aussitôt démenti avoir frappé le bâtiment dans lequel les employés de l'ONU se trouvaient. Amira Sulem, Ramallah. RFI.
Et depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, déclenchée le 7 octobre 2023, au moins 280 employés de l'ONU ont été tués à Gaza. L'escalade de violence entre les rebelles houthis au Yémen et les États-Unis continue. Les tirs américains ont visé la capitale Sanaa et le nord du pays. Les houthis seront complètement anéantis. La menace de Donald Trump. Le président américain demande également à l'Iran l'arrêt immédiat de son soutien aux rebelles yéménites. Pendant ce temps, les rebelles houthis ont revendiqué une quatrième attaque en 72 heures contre un porte-avions américain en mer Rouge. Rencontre inattendue ce mardi à Doha entre les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Réunis par l'émir du Qatar, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont à nouveau engagés pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, où Kigali soutient la rébellion de l'AFC M23. L'avenir dira cette fois si les promesses se traduisent sur le terrain. Mais en tout cas, c'est un coup diplomatique du Qatar, et cela grâce aux bonnes relations de l'émirat avec les deux pays. Doha s'est fait une spécialité des médiations, une crédibilité qui est son principal levier, explique Benjamin Auger, chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l'Institut français des relations internationales.
Je pense que le levier, c'est le même que dans toutes les médiations que le Qatar a entrepris depuis déjà plus d'une décennie. C'est-à-dire qu'il se voit comme un acteur qui lui-même n'a pas besoin de business, qui est plutôt un acteur qu'on vient chercher pour pouvoir avoir des fonds. Il se considère comme un acteur neutre. Donc, il met à disposition sa plateforme de négociation et de médiation pour pouvoir négocier. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Nécessite des moyens, il mettra des moyens. Si ça nécessite éventuellement des investissements, investissements dans les deux pays y mettra la main à la poche. Et l'objectif, c'est que, quel que soit le temps que ça prendra, et ben qu'ils arrivent à un consensus. Donc c'est un acteur dont on pense pas, du point de vue de Kinshasa ou du point de vue du Rwanda, qu'il y a un agenda caché. Et ça, c'est la grande force du Qatar, hein, depuis longtemps, dans toutes les médiations qu'il a entrepris, que ce soit en Afghanistan, au Darfour et dans bien d'autres cas.
Des propos recueillis par François Mazet. Seul un potentiel contrôle américain de la centrale de Zaporijjia a été évoqué. Les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky après son appel avec le président américain Donald Trump. Il a échangé ce mercredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Une conversation d'une heure selon la Maison Blanche. Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays était prêt à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles en Russie. Il ajoute que des équipes de responsables ukrainiens et américains sont prêts à se rencontrer en Arabie Saoudite dans les prochains jours. Donald Trump a de son côté salué un très bon entretien au lendemain de son appel avec Vladimir Poutine. Sur le front, l'Ukraine a compté pendant la nuit de mardi à mercredi 6 missiles et 145 drones de combat russes. Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué un dépôt pétrolier de la région de Krasnodar. Un procès qui a laissé peu de doutes. La réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté a été requise contre Mehdi Nemmouche. Et ce, au procès des geôliers du groupe État islamique. Le tueur du musée juif de Bruxelles est poursuivi avec 4 co-accusés pour son implication présumée dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie entre 2013 et 2014 et les actes de torture et de barbarie qu'il leur aurait infligés. Laura Martel.
Mehdi Nemmouche est l'un des djihadistes les plus pervers et cruels de ces 10 dernières années, au milieu d'un palmarès malheureusement particulièrement fourni, un sociopathe dénué de toute empathie mais doté d'une véritable intelligence, cingle d'emblée l'avocat général, tout en mettant en garde contre toute starification de l'accusé. Au nombre des éléments à charge, il y a bien sûr les témoignages des ex-otages. Tous ont reconnu la voix, le phrasé, mais surtout les obsessions de l'accusé, son antisémitisme incarné dans son admiration pour Mohamed Merah, ses marottes, de la guerre en Bosnie à Charles Aznavour, en passant par les grandes affaires criminelles. Une reconnaissance formelle, constante et répétée, corroborée par l'ensemble des investigations, résume Benjamin Chambre, qui insiste notamment sur ces vidéos du centre de torture d'Alep, qui confortent l'identification de Mehdi Nemmouche et confirment son rôle de geôlier. Et de railler, les dénégations jusqu'à l'absurde de l'accusé signent selon lui de sa grande lâcheté. Contre cet homme à la dangerosité extrême et persistante, Benjamin Chambre demande une peine à la hauteur de sa personnalité, ses antécédents et ses crimes odieux, une peine qui protège définitivement notre société. Il conclut, face à celui qui rêvait de devenir le héros de l'émission Faites entrer l'accusé, il conviendra par votre décision que vous fassiez oublier l'accusé.
Pour les 4 autres accusés, dont 2 sont présumés morts, des peines de 20 ans d'emprisonnement à la perpétuité ont été requises. Ce jeudi, la parole sera à la défense. Ce drame au large de Calais, un migrant est décédé lors d'une traversée de la Manche. Le corps a été repêché mercredi près d'Equienne Plage dans le Pas-de-Calais. Plusieurs autres migrants ont été hospitalisés, dont un adolescent en état d'hypothermie. Cela porte à 7 le nombre de décès depuis le début de l'année dans ce type de traversée. Selon l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, 78 personnes sont mortes en 2024 en tentant de rejoindre l'Angleterre. Le gouvernement français se divise sur la question du voile dans le sport. La ministre des Sports Marie Barsac a été convoquée chez le Premier ministre François Bayrou. Elle était pourtant en route pour la Grèce où elle participe à la session du Comité international olympique. La ministre des Sports n'est pas d'accord avec ses homologues de l'intérieur, Bruno Retailleau, et de la justice, Gérald Darmanin, qui veulent interdire les signes religieux dans le sport. Elle a précisé sa pensée et dément tout recadrage par le chef du gouvernement.
Les insignes religieux n'avaient pas leur place dans les compétitions officielles des fédérations délégataires de services publics. Nous avons tous partagé cette position hier dans le bureau du Premier ministre et c'était clair et c'était effectivement bien de se le dire. C'est pas un recadrage, c'est une discussion entre des personnalités du gouvernement qui avaient un intérêt sur ce sujet. Mon point de vue, et c'est ce que j'ai défendu à plusieurs reprises, c'est de dire qu'il y a une interdiction qui se limite aux compétitions officielles. Le sport est un lieu d'émancipation, moi j'en suis la première convaincue et en tant que ministre des Sports, pour moi c'est important. important que le sport puisse accueillir tout le monde. Maintenant, il y a une règle sur les compétitions officielles qui est claire. Et encore une fois, quand on participe à une compétition officielle, eh bien, on porte la tenue de son club.
Marie Barsac au micro de Christophe Diremzian. Du sport toujours avant de fermer ce journal, mais cette fois sur les pistes. Avant les Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront à Milan, en 2026, la Française Perrine Laffont a décroché son 6e titre mondial en ski de bosse à Saint-Moritz, en Suisse. À 26 ans, elle devient la première skieuse à remporter 3 fois de suite le titre mondial. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.